Je me retrouve en médecine interne à la fin de l'année 2019. J'ai une mucoviscidose tardive. Et je me retrouve là-bas parce que beaucoup de difficultés à respirer. Et moi, l'hôpital, ça me dit rien. Donc, j'y vais un peu à reculons en disant, je vais y rester 5 jours. Je reste 15 jours. Et elle me dit, bah, écoutez, choisissez un tableau dans le couloir. Moi, j'ai pensé que c'était une récompense. Puis en fait, je ne me rendais pas compte que c'était une thérapie.
La beauté peut-elle soigner ?
Laurence Di Félix, Raphaël Boucher.
Vous saviez que quand on regarde une œuvre qu'on aime, le cerveau sécrète de la dopamine et de la sérotonine ? Ce sont des substances qui favorisent plaisir et bonne humeur. Alors l'art ne guérit peut-être pas les maladies, mais il apaise, il réconforte et pour certaines et certains malades, il est bien plus qu'une petite béquille. L'art et la beauté caressent notre cerveau en activant la zone de la récompense. C'est le neurologue français Pierre Lemarquis qui le dit. En travaillant avec des personnes atteintes d'Alzheimer, il a pu montrer que l'écoute de la musique retardait l'évolution de la maladie. Des initiatives qui associent art et santé fleurissent un peu partout. En Suisse, en ce moment, plusieurs hôpitaux romans s'associent au printemps de la poésie et proposent des poèmes aux malades pour accompagner leur séjour. Autres exemples, au Québec, des médecins prescrivent des visites de musée à leurs patientes et patients pour soigner leur corps et leur âme. Et en France, le musée du Louvre prête désormais des œuvres à certains hôpitaux pour favoriser la guérison. Crise sanitaire oblige, la culture a été déclarée non essentielle. Mais cette semaine, Vacarme s'offre une cure de beauté et part à la rencontre de chercheuses et de chercheurs, d'artistes, de médecins, de thérapeutes et de malades bien sûr, qui expérimentent l'art au service du soin. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon, où la psychologue Laure Mailloux a mis sur pied une artothèque à l'hôpital Lyon-Sud. Les malades y choisissent une œuvre ou un poème. Voici Tableau sur ordonnance, un reportage de Cécile Guérin, réalisé par Yves Roulin.
Troisième.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, on ouvre l'ascenseur et là, il y a marqué l'invitation à la beauté, l'ouverture au monde.
Ça commence là avec Charles Juliet. Moisson, un poème qui a fait vraiment du bien pour faire naître des choses qu'on n'arrive pas à faire naître quand on est à l'hôpital. Ce poème est un remède. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est Montaigne. Montaigne disait « Le livre est un remède pourquoi ». Pourquoi ? Parce qu'on est en compagnie, on n'est plus isolé. C'est pas on n'est plus tout seul, parce que la solitude, c'est pas quelque chose qui fait du mal, en fait. C'est l'isolement qui fait souffrance.
Juste une chose avant qu'on continue, on est dans le couloir du service de médecine interne. Vous, Laure Mailloux, vous êtes psychologue.
Je suis psychologue et passionnée d'art.
Vous me faites visiter alors cette artothèque.
On a distillé donc une quarantaine d'œuvres d'art dans le couloir de médecine A et médecine B. Voilà, donc vous avez déjà l'écume d'un jour de Frédéric Joubert, un artiste lyonnais, hein, qui a eu la gentillesse de nous prêter plusieurs œuvres de sa collection. Vous avez là une photographie de Pénélope Octavio, hein, une artiste lyonnaise également. Ce tableau a été un grand moment pour une des patientes, hein, Laura, qui a écrit une lettre vraiment extraordinaire. Donc cette jeune fille arrive dans le service et voit ces tableaux qui sont accrochés dans le couloir. Et cette jeune fille, en fait, donc, souffre de la mucoviscidose et elle a été en chambre d'isolement pendant un mois. Elle voit ces tableaux et elle dit à l'équipe, je veux ce tableau dans ma chambre ce soir. Et l'équipe est tellement sensible et tellement humaine et tellement hospitalière. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait tout le possible pour pouvoir exaucer en fait le rêve de cette jeune fille.
Elle lui accroche le tableau.
Elle lui accroche le soir le tableau. Et qu'est-ce qui se passe ? Et ben cette jeune fille parle au tableau en fait. Et elle le tutoie en fait le tableau. Elle lui dit, et il faudra que je vous lise la lettre parce qu'elle est de toute beauté.
Toujours des artistes lyonnais, alors, cette
Artothèque. Alors là, oui. Pour l'autre Artothèque qu'on va faire à l'hôpital Mère-Enfant, il y a des illustrateurs, artistes qui viennent de la France entière. Mais là, on s'est concentré auprès d'artistes lyonnais. Donc là, c'est une artiste qui est très appréciée également, qui s'appelle Valentine. Le pédaleur, ça s'appelle, ce petit enfant qui est sur sa bicyclette et qui s'amuse, qui est en joie. Tous ces tableaux, je les ai choisis vraiment. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une fibre soignante, en fait. C'est des tableaux, si vous voulez, quand vous l'avez dans votre chambre, eh ben, il faut absolument qu'il y ait ces possibles d'ouverture, ces fenêtres de vie, disent les patients. Autrement, c'est un tableau qui peut être insupportable. Donc, il y a des tableaux qui sont des contre-indications. Je joue avec ces mots-là, prescription culturelle, bien évidemment.
Et puis, votre proposition s'appelle l'invitation à la beauté. Peut-être que quelqu'un trouve ça tout moche, cette photo. La beauté, c'est très élitiste aussi.
Alors, c'est infini, je dirais, qu'élitiste. C'est que c'est pas moi qui vais choisir le tableau pour le patient. Je propose une palette de tableaux et c'est lui qui va choisir celui avec lequel il est en empathie, c'est-à-dire celui qui lui parle. Là, on nous donne la liberté, le choix, vraiment, de prendre ce qu'on a envie.
Et là, rêver et aimer, c'est tout un programme.
Voilà, qui a donc les titres rêver et aimer. Voilà.
Bonjour.
Ça va, la star.
Il y a Cathy qui a pris le relais.
C'est vrai.
Ouais.
Qui s'occupe finalement maintenant des tableaux ? Ça m'interpelle. Vous êtes dans le service, vous êtes infirmière ?
Non, aide-soignante.
Aide-soignante. Et puis c'est vous qui proposez les tableaux aux patients ?
Alors oui, quand ils arrivent, du coup, ouais, on en reparle. Alors c'est vrai que là, avec le Covid, on avait été un petit peu... Enfin, on n'avait pas la possibilité vraiment de leur en parler, puisque du coup, les tableaux restaient essentiellement dans le couloir. Et, c'était en fait, les patients, ils sortent dans le couloir et... Et à l'entrée, je leur disais qu'il y avait des tableaux et qu'ils avaient la possibilité, du coup, s'il y en avait un qui leur plaisait, d'en prendre un, de le mettre dans la chambre. Et voilà, j'amenais les choses comme ça.
Et comment ça se passait quand le tableau arrivait dans la chambre ?
J'ai un souvenir d'une patiente qui avait choisi un tableau et qui avait fait un poème par rapport à ce tableau-là. Et du coup, on en avait longuement discuté de ce qu'elle voyait, de ce que ça représentait pour elle. Et du coup, ça amenait à discussion parce que toutes les deux, on voyait la même chose, en fait. Et donc, du coup, on voyait un ange. Et du coup, elle se sentait rassurée, apaisée. Enfin, du coup, il y avait toute une...
Donc c'était plutôt un tableau ou une photo ?
C'était un tableau.
Un tableau. Parce qu'il y a une photo où on voit trois anges blancs.
Ça, c'est la photo.
Voilà.
C'est celle-ci.
Voilà,
c'était la photo.
Ouais, une autre patiente aussi qui l'avait.
Et elle avait vraiment visualisé ces anges-là et du coup, elle se sentait protégée et ça lui avait fait du bien.
Et donc, à partir de cette contemplation de l'œuvre, elle s'est mise...
Elle avait écrit...
Quelques jours après ? Quelques jours après ?
Oui. Bah, elle était restée très longtemps. C'est une patiente qui a la mucoviscidose. Et du coup, elle était restée sur un séjour assez long. Donc, du coup, je ne sais plus dans quel délai elle avait écrit, mais voilà. Ouais.
Donc, c'est une jolie histoire parce que là, ce que vous êtes en train de dire, en fait, vous lui avez fait donc une prescription. Enfin, elle s'est fait une auto-prescription, c'est-à-dire qu'elle a choisi son tableau.
Elle a choisi ce tableau-là.
Et à l'issue de ça, elle va engendrer, donc elle va créer, donc elle va sortir des beaux mots d'elle. En fait, donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle devient une prescriptrice poétique envers l'équipe soignante, c'est-à-dire qu'elle vous a offert
complètement,
un poème. Ça, c'est magnifique.
Ah, ouais, c'était. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire, c'était... On était sortis, en fait, du soignant-soigné, là.
Parce que, du coup,
voilà, c'était ça. C'était, on parlait de ce tableau-là, et ni plus ni moins, quoi. Donc, ça facilite, après, notre contact avec le patient. Voilà, parce qu'après, le lendemain, la toilette va se passer différemment, parce que le patient sera certainement plus détendu, parce que, du coup, on aura eu cette discussion-là, et que du bon, j'ai envie de dire. Oui, puis même entre collègues aussi, on a eu des tableaux qui nous ont plus interpellés. Et du coup, à chaque fois, on se le disait entre nous. « Ah, qu'est-ce que t'en penses ?»« Moi, je vois ça. Bah, moi, j'aime pas. Bah, » Enfin, donc, ça amenait aussi... ça amène aussi...
Une ouverture
aussi. Voilà, complètement, entre collègues également.
La petite anecdote, c'est qu'on avait... Donc, on a inauguré sur la première année l'Artothèque et on avait mis un tableau de Big Ben. Vous voyez
Et l'artiste lyonnais.
Exactement, un street artiste qui nous a fait un don
de 4 œuvres de sa collection pour l'association. Et il avait fait un tableau dans la veine de Magritte où vous voyez un personnage et qui était caché, en fait, son visage était caché avec un iPhone, en fait. Et ce tableau, donc au fond du couloir, ce tableau, mais en fait, on a dû l'enlever parce qu'il dérangeait.
Il y a eu un tableau aussi qui dérangeait, qui était au fond de ce couloir là-bas. Et on allait tous au vestiaire un petit peu plus loin. Enfin, on passait forcément devant. Et ce tableau-là, c'est, ben, dans la représentation, c'était un homme et il était représenté en plus petit aussi. Ben, il suscitait une discussion, en fait. Il ne laissait pas...
Indifférent,
en fait. Et, voilà. Et certaines personnes étaient dérangées par ce tableau-là, en fait.
Il est toujours accroché
colle. Parce que là, je ne sais plus.
Parce que c'est rigolo ce que vous dites. Parce que, en fait, cet après-midi, on va rencontrer tout à l'heure Agnès, la patiente. Et ce tableau, c'est ce tableau qui l'a soigné.
Et je sais que j'ai un patient qui l'avait choisi dans sa chambre et j'avais beaucoup discuté avec ce tableau-là parce que moi, je le craignais, ce tableau, et je ne savais pas expliquer pourquoi. C'est vrai, il y a des choses où on craint, on n'aime pas, il me dérangeait un petit peu, mais je ne saurais pas expliquer, je n'arrivais pas à poser des mots. Et du coup, lui, c'était ce tableau-là qu'il avait choisi. Donc, on en avait parlé aussi.
Et lui, ça lui disait quoi, ce tableau?
Et bien, lui, ça lui faisait penser à son enfance, en fait, sa projection sur son enfance, quand il était petit, quand... Voilà, et ça le renvoyait à quand il était petit, et voilà, alors que moi, pas du tout. Enfin, voilà, et c'est toute la différence. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout tous le même ressenti. Et, enfin, c'est toute la richesse, en fait.
On vous laisse, vos collègues sont partis.
Ouais, bah ouais, ils ont eu peur du micro. Bah, quand on arrive avec un micro, on n'aime pas bien.
Merci, en tout cas.
C'est de rien.
Bonne journée, au revoir.
Merci, Cathy, je peux prendre vos coordonnées,
bien
comme
sûr.
Ça, parce que ça va
sans problème.
À Villefranche-sur-Saône, chez une ancienne patiente qui était à l'hôpital, Agnès, qui va nous raconter sa rencontre avec les tableaux.
Je me retrouve en médecine interne à la fin de l'année 2019. J'ai une mucoviscidose tardive. Et je me retrouve là-bas parce que beaucoup de difficultés à respirer. Et moi, l'hôpital, ça me dit rien. Donc, j'y vais un peu à reculons, en disant, je vais y rester 5 jours. Et puis, le professeur Durieux me dit, non, ça serait mieux, 15 jours. Et puis, elle a fait passer le message, comme ça, par le service soignant. OK, je reste 15 jours. Et elle me dit, écoutez, choisissez un tableau dans le couloir. Moi, j'ai pensé que c'était une récompense. Puis, en fait, je ne me rendais pas compte que c'était une thérapie. Le tableau de Big Ben m'avait tellement cueilli comme ça à l'entrée, enfin quand je l'avais vu, que j'avais dit, de toute façon, c'est simple, hein, le tableau, il est choisi, c'est celui qui est là, bien. Et puis elle me dit, oui, c'est un peu une récompense. Mais elle m'avait rien dit de plus. Et au fur et à mesure, j'ai vu le changement que ça a amené chez moi. Alors, le tableau représente Buster Keaton. Alors, un grand Buster Keaton assis avec les mains autour des genoux, comme ça. Et un petit Buster Keaton qui est dans la même position, mais lui, ce sont les bras qui sont autour des jambes. Comme un enfant qui a peur. Et en fait, le grand Buster Keaton regarde le petit Buster Keaton. Et là, on peut tout imaginer. La discussion, cette forme d'entraide, cette forme de protection. Ben voilà, quoi. Il y a tout ce que ça peut révéler. Tout ce que l'on peut imaginer qui se disent. Et puis, il y a surtout la discussion avec les soignants. C'est-à-dire, mais pourquoi vous avez choisi ce tableau? Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y en avait qui disaient, ça me fait peur. Et en fait, je me suis rendu compte, quand on a ça et qu'on peut discuter, La pathologie. Alors déjà, moi, j'avais le manque d'air, d'abord parce que je respire mal, mais en plus, les fenêtres de l'hôpital, ça s'ouvre de 15 cm, pas plus. Donc, le manque d'air était présent. Et là, ce manque d'air a été beaucoup moins pesant. L'isolement a été moins pesant. Pourquoi ? Parce que j'avais cette possibilité de discuter d'autres choses avec les soignants, c'est-à-dire de reprendre une forme de sociabilité. J'étais de nouveau une personne pensante, échangeant, évoluant, questionnant. Le discours que j'avais avec le personnel soignant, c'était pas seulement « on vient vous donner votre part, on vient vous prendre vos constantes ». Non, c'était autre chose, quelque chose de plus intime, d'un côté comme de l'autre. Et cet échange-là fait du bien. Parce qu'en fait, on n'est plus le malade de l'hôpital, on est une personne pensante à nouveau. Et j'ai fait cette différence quand je suis retournée à l'hôpital à la fin de du premier confinement. Là, je suis restée 3 semaines, mais Covid oblige, je n'étais plus dans le service de médecine interne. On avait une annexe ailleurs, pas de tableau. Et la seule chose que j'avais, et heureusement, j'étais au rez-de-chaussée, donc j'avais une grande fenêtre qui s'ouvrait. Il faisait beau et donc elle était ouverte les 3/4 du temps et j'avais un talus rocheux avec un arbre. Et heureusement que j'avais ça parce que le personnel soignant, pour eux, ce décor, c'était comme un papier peint. C'est de l'habituel, elles le voyaient tous les jours. Et puis surtout, je pense qu'elles n'étaient pas formées comme était formée l'autre équipe. Il n'y a eu qu'un médecin de garde qui est venu et qui me voyait, mais je me remplissais de ce tableau vivant. Et je lui dis, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Et puis, moi, j'aime les oiseaux. Et elle me dit, vous savez, certains soirs, il y a une chouette qui ulule pas loin. Bon, j'ai eu beau temps de l'oreille, je l'ai jamais entendue, la chouette. C'est la seule qui a compris ce besoin qu'on a de sortir de notre maladie, parce que c'est déjà lourd, parce qu'être enfermé dans l'hôpital... Et en plus de ça, en isolement, c'est pas facile non plus. Là, il y avait en plus de ça pas les visites. J'ai passé mon temps à écouter de la musique. Parce que là, alors là, par contre, avec la musique, vous partez où vous voulez. Hein. Le monde entier, ça, il n'y a pas de souci.
Pierre Lemarquis, vous êtes neurologue à Toulon et vous avez écrit « L'art qui guérit », alors on se parle hein, par Skype. Finalement, comment les patientes et les patients s'évadent en regardant une œuvre d'art ?
Les patients qui avaient ces tableaux, avec les infirmières, ils parlaient plus des perfusions ou des piqûres, ils parlaient de l'œuvre d'art qui était dans la chambre, ça leur permettait une évasion. Et il y en avait beaucoup qui n'auraient peut-être jamais avant été dans un musée et pensaient que c'était quelque chose qui les concernait pas. Ils ont compris qu'ils pouvaient rentrer dans l'œuvre d'art, que l'œuvre d'art, c'est un peu un ami, quelqu'un qui est à côté d'eux, qui les aidait dans leur maladie.
L'œuvre d'art nous modifie, vous dites, elle sculpte notre cerveau.
Et puis elle le caresse, elle fait les deux. Elle le sculpte, donc elle crée de nouvelles connexions, et puis elle le caresse avec ce système du plaisir et de la récompense. C'est là qu'il y a le côté, on peut dire, thérapeutique. Ça a été bien prouvé à la fois pour la musique et pour les arts visuels. Donc, ce système du plaisir de la récompense secrète plein de bonnes choses. Alors, c'est des noms barbares, mais on connaît beaucoup la dopamine qui manque dans le Parkinson, qui est impliquée donc dans le mouvement, mais également dans l'élan vital, dans la joie de vivre. Donc là, on est sûr qu'il y a sécrétion de dopamine dans les deux cas, et certainement d'endorphine, c'est on secrète de la morphine endogène, c'est ce qui nous donne des frissons quand on entend une musique qui nous plaît. Bon, ça peut se faire aussi des fois avec les arts visuels, ça peut donner syndrome de Stendhal, vous voyez, on se sent mal, on se sent vacillé devant une œuvre d'art tellement elle est belle. Et donc cette morphine endogène, elle a un rôle à la fois antalgique, on oublie ses douleurs, et puis elle va nous permettre de mieux dormir, d'être moins anxieux. Donc là, il y a quand même un côté chimique qui donne un petit côté presque médicamenteux.
Vous êtes neurologue, Pierre Lemarquis, vous soignez hein, des personnes qui viennent vous voir, qui sont souvent des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, donc des maladies chroniques neurodégénératives. Vous leur faites des prescriptions en leur disant « mais allez voir des belles choses, des œuvres d'art », vous leur dites ça ?
dans mon bureau, j'ai plein d'œuvres d'art. Mais j'impose rien. Si les gens commencent à les regarder, à m'interroger, on discute et après, ça débouche sur des suggestions. Les Alzheimer avec la musique, bon, maintenant, on en parle beaucoup, mais il y a 15 ans, on en parlait beaucoup moins, vous voyez. Après, bon, si on passe à l'art visuel, les Alzheimer sont très heureux de voir des tableaux parce que si on leur demande lesquels ils aiment, eh bien, ils redeviennent quelqu'un. Ils ont un jugement à donner. C'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Ils sourient. Vous savez, quand vous voyez un Alzheimer, vous les interrogez, savoir quel déficit intellectuel ils ont, donc vous les mettez face à leur échec. C'est quand même quelque chose de perturbant. Après, vous voulez savoir s'ils sont déprimés. En posant des questions pour savoir s'ils sont déprimés, vous arrivez à les déprimer. Bon. Si vous leur montrez des œuvres d'art, ils sont heureux. Ils ont quelque chose à faire. Souvent, ils sourient. Ils repartent dans un meilleur état qu'en arrivant. Alors, quand on n'a pas pour vous de moyens d'arrêter Alzheimer, c'est quelque chose d'intéressant. Et pour le Parkinson, c'est la musique. Le Parkinson, c'est une maladie de l'initiation du mouvement. Puis les Parkinsoniens sont souvent déprimés. S'ils se mettent à imaginer des musiques bien rythmées, ils vont marcher en rythme, c'est même parfois très spectaculaire. Donc on a beaucoup insisté sur le tango dans la maladie de Parkinson. Il y a d'autres danses, il y a la marche. Tout le monde y trouve son compte, donc ça devrait se développer. En plus, c'est quand même c'est quelque chose qui n'est pas onéreux, qui n'est pas dangereux. Donc normalement, ça devrait se développer. C'est remettre un peu d'humanité dans les soins. Je crois que tout le monde le souhaite.
Est-ce qu'il y a un blocage entre, je sais pas, vous avez l'air d'être très ouvert comme neurologue, mais les médecins, ils ont envie que ça soit prouvé scientifiquement, et ce qui est normal pour des remèdes chimiques, etc.
Ah, si on veut le faire rentrer dans les soins, il faut le prouver. Il faut que ce soit pas des croyances, mais des connaissances. Mais bon, le rapport de l'OMS, il y a quand même 900 articles parus dans des revues scientifiques qui touchent tous les arts, hein, même les arts informatiques, et qui prouvent par des études bien faites que l'art peut aider dans beaucoup de circonstances. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a des études faites bien réalisées dans des revues scientifiques, à ce moment-là, c'est plus facile d'ouvrir les portes.
En même temps, là, on traverse une grande pandémie où les arts sont notés comme non essentiels, puisque les musées sont fermés, les théâtres et les cinémas. Et donc ça paraît étonnant au moment où on traverse quelque chose de très angoissant.
C'est ça qui est dramatique, parce que vous voyez, donc on a ces deux cerveaux. Bon, celui qui nous permet de nous maintenir en vie, celui-là, on le protège. C'est ce qu'on fait avec tous nos gestes barrières, le fait de ne pas pouvoir sortir. Mais celui qui nous donne envie de vivre, à l'heure actuelle, il est très frustré. Donc, si vous voulez, de voir arriver une épidémie de dépression ou de suicide, ça paraît logique, ça paraît dans l'ordre des choses. Donc, il faut quand même pas que la situation dure trop longtemps. Enfin, faut vraiment trouver des alternatives. C'est vital. C'est une urgence sanitaire aussi.
On ne peut pas imaginer la puissance de l'art dans la thérapie. Je pense que c'est, il faut y passer pour le comprendre.
Vous aviez été surprise en fait.
Moi, j'ai été très surprise. Hein. Je vous dis, moi, je pensais que c'était qu'il y avait des tableaux. Bon, c'était pour décorer un peu. Surtout que j'avais pas fait tous les couloirs, mais bon, j'en avais fait une partie d'un au moins. Et je pensais que c'était du décoratif.
À quel moment vous apercevez que c'est thérapeutique? Le premier jour, le deuxième jour?
Assez rapidement. Assez rapidement, parce que du moment où il est placé devant moi, là, ça y est, je pars. J'ai plongé, mais il était en face de mon lit. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je l'avais toute la journée en face de moi et. Quand je suis rentrée, il me manquait quand même. Hein. Il me manquait quand même. Je l'aurais bien eu en face de mon lit encore.
C'est vous.
En fait, vous partez dans le tableau pour rêver, imaginer. Et voilà, quoi. Quand vous pensez à quelque chose, on dit souvent aux enfants quand ils disent « Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre », pense à autre chose. C'est exactement pareil chez l'adulte. Et le fait de partir, d'avoir un objet ou un tableau ou une photo ou une musique pour partir, ça fait oublier là où on a mal. Et moi, ça me faisait oublier ce manque d'air parce que j'étais ailleurs. C'est en sortant de cet état de malade qu'on arrive à combattre et qu'on reprend la force de combattre. Autrement, on ne combat pas, on se laisse aller. Si on a toute la journée la maladie en tête, on se laisse aller.
Vacarme.
Regardez les tableaux. L'amie qui peint ces tableaux, elle s'est mise à la peinture parce qu'elle a une pathologie neurologique dégénérative. Ben, ça l'a fait vivre. Et moi aussi.
Est-ce qu'un tableau vous a aidé à guérir? Est-ce que parfois même un tableau vous manque, comme le dit Agnès? Un numéro pour nous le dire, 058 236 236 0. Est-ce que le fait de contempler une œuvre, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vous aide à aller mieux? L'art est-il pour vous indispensable? 058 236 236 0.
Vacarme, Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Yves Roulin.
Demain, nous visiterons un jardin niché au cœur des hôpitaux universitaires genevois. Un jardin qui soigne, un jardin qui fait du bien, car après tout, la nature aussi, c'est de la beauté.
Travailler avec la danse, l'art, thérapie, la musicothérapie, le jardin thérapeutique permet d'améliorer l'estime de soi, la qualité de vie, etc. Donc il n'y a pas seulement que les traitements qui sont importants, mais la prise de conscience que la vie est belle, malgré la maladie.
Thérapie sur l'herbe, c'est demain, dès 13h, dans Vacarme. Restez avec nous sur la première. Tout de suite, histoire.